suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel,
Nous sommes lundi matin sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels. Tous Essentiels, une émission présentée par Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour, et puis animée et musicalisée par Max ? Ça se dit ?
Moi, on peut dire ça.
Oui, ouais. Ben maintenant ça se dit.
Mise en illustration sonore.
Oh, c'est beau. Eh bien, aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale. Figure-toi que nos invités ne sont pas en plateau parce qu'ils ont déjà été enregistrés lors d'une table ronde, une conférence sur le revenu de base qui a eu lieu à Lille le 17 octobre. Tu sais ce que c'est le 17 octobre ?
Non, mais tu vas me le dire.
Mais oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe le 17 octobre ?
C'est la journée internationale de lutte contre la misère.
D'accord, effectivement.
Voilà. Et cette année, on a organisé une table ronde avec quelques personnes qui s'impliquent directement auprès d'autres personnes qui sont impliquées directement dans la misère. La précarité, voilà, misère, pauvreté, précarité, on va mettre un petit peu tous ces mots-là sans forcément rentrer dans les détails. Et l'objectif, c'était de donner la parole, de mesurer un petit peu de façon en même temps locale, puisque c'est des intervenants dans la métropole lilloise, et en même temps globale, parce que c'est tellement révélateur d'une situation qui dépasse largement nos frontières. Donc voilà, on vous emmène aujourd'hui à la découverte des différentes entrées de la misère, de la pauvreté. Et on conclura sur qu'est-ce qu'un revenu de base apporte dans les expérimentations. Peut-être pour donner un contrepoint intéressant et qui pourrait ouvrir un peu d'espoir à tout ça.
D'accord. Et donc cette conférence, cette table ronde, c'est toi qui l'as animée ?
Oui, c'est moi qui l'ai animée avec l'association Prune pour un revenu universel Nord, qui est née l'année dernière à Lille et qui est un... qui est allié au mouvement français pour le revenu de base,
d'accord,
mais de façon plus locale. Donc voilà, si ça vous intéresse de nous rejoindre, bienvenue, on se rencontre tous les deuxièmes mardis du mois au Café Citoyen de Lille à 19h. Donc welcome pour s'informer, pour débattre, pour apporter votre témoignage, vos réflexions et puis agir. Voilà, on fait autant d'éducation populaire que de lobbying local. Parce que nous aussi, on a le droit de faire du lobbying.
Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison.
Alors dis-moi, qui va-t-on écouter pour commencer tout ça ?
Alors, on va écouter d'abord Bernard van der Buchen, qui est bénévole à ATD Quart-Monde. Et il va nous expliquer d'abord ce que c'est qu'ATD Quart-Monde, comment c'est organisé, parce qu'il y a vraiment des spécificités dans cette association. Et aussi leur position par rapport à l'idée d'un revenu de base, puisqu'ils sont assez impliqués dans des expérimentations.
Eh bien, allons-y, c'est parti.
Je m'appelle Bernard van den Bunder et je parle au nom d'ATD Quart-Monde. Donc, je veux d'abord vous remercier de cette invitation. On a été très touchés que vous ayez repéré qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et aussi, j'ai touché ce que vous avez dit au tout début, que Victor Hugo, il disait qu'on pouvait éradiquer la misère. Eh bien, c'est justement l'objectif du mouvement ATD Quart-Monde.
Ça tombe bien.
Tout simplement, c'est d'éradiquer la misère. Donc c'est un mouvement qui est né dans un bidonville, à Noisy, qui a été fondé par le père Joseph Brzezinski. Et une des caractéristiques de ce mouvement, c'est que... C'est la conviction qu'on peut éradiquer la misère en se basant sur des connaissances solides. Des connaissances d'abord des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, et donc qui sont sur le front tous les jours pour lutter contre la pauvreté. Deux, les compétences des professionnels, et ensuite les compétences académiques des chercheurs. Alors comment ? Et c'est le mouvement, depuis des années, eh bien, a expérimenté un dialogue avec l'université, avec des chercheurs, avec des professionnels, et dans les différents domaines, que ce soit l'école, le travail, l'écologie, la culture, on travaille en carrefour, le croisement des savoirs. Je ne vais pas parler de ça. Donc, si vous voulez, se baser sur des connaissances solides. Alors, vous avez tiré le fil, vous avez parlé de revenu, hein, et donc vous avez montré comment, en tirant le fil du revenu, eh bien, on améliore aussi la condition psychologique des personnes, enfin, toute une série de la dynamique économique, voilà, donc on pouvait agir sur différents aspects. Simplement, je voudrais commencer mon intervention par dire que, donc, pour combattre la pauvreté, pour l'éradiquer, il faut bien la connaître. Et donc, il y a eu tout un travail de recherche qui a été fait avec des chercheurs, avec des professionnels et des gens qui connaissent la pauvreté dans 6 pays différents dans le monde, avec une université, pour caractériser les dimensions de la pauvreté. Et donc, ce qui est au cœur de la pauvreté, c'est la perte du pouvoir d'agir. Le fait qu'on dépend de la volonté des autres et on n'a pas le droit de voilà, on est complètement dépendant. Hein, ça, c'est le cœur. D'où il en sort une souffrance psychologique, vous l'avez évoqué. Hein, et puis aussi, il y a aussi un combat et une résistance quotidienne. Hein, il faut faire face et donc il faut être inventif, il faut être créatif pour survivre, pour donner de la nourriture à ses enfants. Donc voilà, ça, c'est le cœur de l'expérience. Après, il y a toute une série de dimensions qui sont relationnelles. C'est d'abord le fait que les compétences qu'on peut avoir ne sont pas reconnues. Le savoir qu'on a n'est pas reconnu. Ensuite, il y a la maltraitance sociale, le fait, voilà, on dit ça, c'est les cassos, voilà, vous voyez, et la maltraitance institutionnelle. C'est d'ailleurs ce sur quoi on se focalise depuis 2 ans, à l'occasion du. Enfin, il y a une campagne pour dénoncer la maltraitance institutionnelle qui concerne tout le monde. Enfin, les points un peu standards, vous allez dire, voilà, quand aujourd'hui, pour remplir un papier, vous passez par le téléphone, enfin, je veux dire, on est paumé, enfin, voilà. Donc, voilà. Mais pour les personnes en situation de pauvreté, je ne vais pas répondre là-dessus, mais c'est vraiment la galère. Voilà. Donc toute une dimension. Donc je vais parler du cœur de l'expérience de la pauvreté, hein, des dimensions relationnelles et puis des dimensions plus classiques qui sont effectivement un revenu insuffisant, des privations matérielles et sociales et puis un manque de travail des soins. Donc, et vous avez montré qu'effectivement, en agissant sur le revenu, on agissait sur d'autres choses. Mais il y a quand même ce point central qu'on voudrait signaler, c'est la déposition du pouvoir d'agir, hein, que vous avez évoqué quand même un peu. Et puis les connaissances qui ne sont pas reconnues, le manque de connaissances qui ne sont pas reconnues. Donc effectivement, si vous voulez, en fait, lutter contre la pauvreté, c'est pas uniquement une question de revenus, hein, c'est aussi d'autres choses. Alors, et nous aussi, là, on pour connaître, eh bien, il faut expérimenter. Donc le RMI a été expérimenté dans la Bretagne dans un premier temps. Il y a une extension qui a été faite beaucoup plus rapidement qu'on ne l'envisageait. Ensuite, il y a eu toute une expérimentation autour du travail. Dès le départ, dans le bidonville, je vais vous raconter l'histoire, mais ils ont voulu créer du travail, hein, pour les personnes. Donc, ça a été une entreprise s'appelle Travailler et Apprendre Ensemble, pour montrer qu'il n'y a personne qui est inemployable. Et puis aujourd'hui, une expérimentation, vous avez entendu parler, c'est Territoires zéro chômeur de longue durée, qui se concrétise ici, dans le Nord, hein, depuis bientôt 10 ans, à Los, les Olivos, Tourcoing, quartier de Menin, puis voilà, oui, bien sûr, Fivre, voilà, je ne comprends plus. Donc, sur l'école, autour de l'école, enfin, des expérimentations. Encore une fois, des expérimentations qui associent des gens qui ont l'expérience de la pauvreté, des enseignants, et l'éducation nationale et des chercheurs. Et si vous voulez, et à ATD, on dit que ce travail-là, eh bien, ça bénéficie à tous. Vous voulez, dans beaucoup d'associations, il y a les bénéficiaires, les publics et les bénévoles. Nous, on n'est pas comme ça du tout. Nous, on dit, eh bien, tout d'abord, tout le monde sera bénéficiaire de ça, si vous voulez. Un territoire zéro chômeur, eh bien, on réinvente un travail, si vous voulez, un travail décent, un travail qui part des compétences. Vous avez aussi évoqué un peu ça, partir des compétences des personnes. Partir des savoirs des personnes, partir des compétences des personnes. Et c'est tout à fait remarquable de voir, si vous voulez, les résultats, ces expériences vraiment des gens qui revivent, quoi, je veux dire, hein, et puis de calculer le coût que ça a de créer un emploi comme ça par rapport aux autres systèmes qui étaient censés permettre l'emploi, comme par exemple on a diminué la TVA sur la restauration pour créer des emplois. Hein, bien quand on regarde le coût de ça et puis le nombre d'emplois qui ont été créés, voilà, ça coûte 5, je sais plus comment le chiffre, ça coûte beaucoup plus. Donc voilà. Donc si vous voulez, alors. Typiquement sur pour conclure, enfin sur le RSA, eh bien sur le revenu universel, il est certain que le RSA, eh bien il y a toute une stigmatisation du RSA, et puis un contrôle social, hein, avec aujourd'hui le, voilà, donc le revenu universel, donc effectivement va gommer cet aspect là alors bien sûr il faut que ça permette une vie digne, hein, et vous l'avez évoqué, Claire. Il y a quand même un point qui reste de dire, voilà, maintenant, les personnes disent, maintenant, on dit, ben voilà, vous avez maintenant des sous, on ne veut plus vous entendre. Hein, et donc, il y a ce souci, enfin, vraiment, de pouvoir travailler. Hein. Et puis, je rappelle quand même que quand on regarde les statistiques, eh bien, il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont en privé d'emploi et il y a 200 000 offres d'emploi non pourvues. Donc ça veut dire qu'il faut créer des emplois. Vous voyez ? Alors, on va discuter travail, emploi, j'entends bien. Hein, je veux dire, ça, c'est pas bon. Voilà. Mais si vous voulez, c'est quand même l'autre. Enfin, il y a quand même ce sentiment de par le travail de réintégrer le monde social, si vous voulez, et ça c'est extrêmement important, si vous voulez, voilà, et tout enfin, si vous voulez, le mouvement, si vous voulez, on en gros, j'ai terminé sur ce plan, j'espère que je suis pas trop long, mais si vous voulez, le mouvement, eh bien on agit sur le terrain avec les personnes, il y a des volontaires permanents, des salariés, donc qui, avec les personnes, ça a commencé dans les bidonvilles, dans les quartiers, voilà. Il y a des personnes comme moi, je veux dire, qui connaissent pas qui n'ont pas connu la pauvreté, mais qui sont alliées dans le mouvement. Et puis il y a les personnes au centre, qui sont les premiers, c'est les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, qui sont les militants. Et donc on agit donc auprès de, localement, sur le terrain. On agit au niveau politique, hein, puisque on agit aussi au niveau de l'opinion, des idées reçues, combattre les idées reçues, parce que Dieu sait si les idées reçues sont nombreuses, voilà. Donc voilà, et on essaie d'agir, on a toujours ensemble, hein, parce que on est peanuts à TD Carmont, de dire, donc si vous voulez, donc on emmène dans la réflexion des autres associations, on fait partie du pacte du pouvoir de vivre, voilà, donc si vous voulez, on se dit vraiment que et c'est tellement riche, enfin si vous voulez, moi j'ai travaillé dans la recherche et je travaille avec des physiciens, des biologistes, et je sais comme c'est compliqué d'avoir des vocabulaires différents, des mondes, des repères différents, mais c'est très riche. Et si vous voulez, quand on mélange des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et des gens qui ne l'ont pas, des gens, et c'est extrêmement, c'est difficile, il faut du temps, il faut se comprendre, il y a tout un protocole, et surtout sur des gens qui n'ont pas l'habitude de parler. On met ensemble des gens qui, et puis on dit voilà, on discutez, faites intelligence collective. Bah, c'est ceux qui ont l'habitude de parler qui parlent. Et puis il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à dire. Et voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez, il y a tout un. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais il y a vraiment tout un protocole qui est amélioré au fur et à mesure, qui est validé, enfin, de croisement des savoirs, de tissage des savoirs, disent les Canadiens. C'est si joli. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et vous remercier encore une fois.
Merci beaucoup. Qui veut prendre la suite?
Et voilà, on vient d'entendre un militant d'ATD Quart Monde. Et j'ai envie de... Donc d'abord, vous avez entendu l'ambiance. Donc c'est l'ambiance du Café des Sarrasins qui reçoit régulièrement des associations et des rencontres militantes. Donc je les remercie. Et ATD Quart Monde qui a une position assez ouverte par rapport aux revenus de base, comme il a dit, une position par rapport aux expérimentations. Donc, en même temps, donc voilà, ils veulent expérimenter et en même temps, fait de travailler avec nous, ça nous oblige à voir un peu plus large la notion de misère ou entre guillemets, hein, je mets des guillemets de pauvreté. Quelqu'un de pauvre, c'est juste quelqu'un qui est appauvri par l'organisation dans laquelle il vit. Donc voilà. Et là, maintenant, on va écouter Corentin Desfontaines, qui est militant au DAL, qui est le droit au logement à Lille. Donc c'est aussi un collectif qui s'organise. Là, plus spécifiquement, il va nous l'expliquer sur toutes les questions du mal-logement, du non-logement, etc.
Rien à voir avec les lentilles, donc?
Non.
Okay.
Non. Merci, Max, pour ton intervention.
Et donc, pour revenir là-dessus, je rappellerai juste à toute fin utile que dans la Mel, on compte entre 4 et 6 000 personnes sans abri, pour environ 40 000 équivalents logements vacants. Et là, je ne parle pas de la location privée, puisqu'à priori, on ne va pas rendre farouche tout le monde autour de cette table, mais je parle ne serait-ce que de la cité administrative, l'ancienne cité administrative à Lille, qui compte entre 30 et 40 000 mètres carrés, on pourrait loger 400 familles, je parle des anciens lycées qui sont laissés à l'abandon, je parle de l'ancien Crous, rue de Douai, des bâtiments publics que le préfet, par ordonnance circulaire, peut demander à ouvrir pour loger des personnes dans la précarité contre, et je le précise bien, un bail précaire. Ces personnes ne sont pas logées à titre gracieux, ils vont payer quelque chose, et c'est pour leur permettre de se retourner. Par ailleurs, on compte, du coup, pas on compte, mais on a une crise du logement qui s'aggrave. Comme j'ai dit, on a des expulsions, des HLM de plus en plus vieillissants. Dans le parc lillois, on a des logements qui datent des années 70, qui sont en manque criant de réhabilitation. Moi, je pense à, il y a 200 mètres d'ici, il y a la résidence d'Arcole, qui est prise au vent et dont les personnes ont beaucoup de mal à chauffer. LMH, qui est donc le bailleur de ces logements sociaux à Lille, qui est connu par certaines ici, je pense, fait la sourde oreille, comme bien souvent font les logements sociaux, ce qui renvoie aux personnes, aux usagers de ce service, un manque de dignité, qui était évoqué tout à l'heure, un manque de considération, comme si leur problème n'était pas de réel problème, alors qu'on parle de logement, qui était, encore une fois, je le répète, mais un droit et un besoin fondamental. En parlant de LMH, je voudrais continuer, et j'ai bientôt terminé, je conclurai bientôt, mais sur la privatisation rampante de nos organismes de HLM, LMH en fait partie. Un tiers de LMH a été cédé à la Caisse des dépôts et consignations. Pour que vous compreniez ce qui se passe derrière ça, la Caisse des dépôts et consignations a apporté une somme au capital de LMH qui lui permet d'acquérir en proportion les mètres carrés que possède LMH autour de 200 à 300 euros du mètre carré. Voilà, vous êtes propriétaire, vous savez très bien que c'est 10 fois inférieur au prix moyen qu'on trouve sur le marché. Il y a des enjeux de corruption autour de ça. Je vais citer personne pour éviter les plaintes en diffamation, mais je pense que certaines personnes voient à qui je pense, notamment à la Mel. On a construit de plus en plus de logements intermédiaires, c'est-à-dire des logements qui sont dits HLM, mais qui sont réservés à une catégorie de la population qui est plus considérée comme de la classe moyenne, voire classe moyenne supérieure, aux dépens des ménages les plus modestes et précaires. Les logements très sociaux représentent que 1/5 des constructions actuellement en France. Et je terminerai sur un point, c'est l'action du DAL, donc le droit au logement, notre association. Notre objectif est de constituer des locataires, des collectifs de locataires pour exiger des réponses de la part des bailleurs, exiger des travaux, exiger qu'ils respectent le droit. Vous parliez du clos et du couvert par rapport à votre appartement auquel on vous a volé vos portes et vos fenêtres. Eh bien, certains bailleurs sociaux ne respectent pas ces obligations qui sont pourtant le béaba de la location. Nous, on s'organise par manifestation, rassemblement, interpellation des pouvoirs publics. On est apartisans, areligieux. Et notre action est faite au niveau national. On est une confédération. Nous, on est le comité de Lille. On vient de se reconstituer après 7 ans d'absence. Et donc, encore merci pour l'invitation.
Qui a baptisé Mozart, Chopin, Gardner, Sarkozy a été le président. Alors, lorsqu'on entend lorsque son grand choisira de relationner la musique avec le monde des animaux, il se réjouit, suffisamment recherché à se projeter dans son propre social.
De l'association Agir contre le chômage, national et régional. Donc nous, ces débats-là, on les a continuellement. Donc, je réfléchissais hier soir chez moi en pensant à cette réunion d'aujourd'hui. Encore une journée mondiale de refus de la misère. On va en faire combien pendant encore combien d'années ? Avant que les droits fondamentaux soient reconnus pour tout le monde. Hein ? Le droit de se loger, de travailler, d'avoir assez d'argent pour pouvoir se nourrir, se loger et tout. Et je regardais les articles 23 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout est dedans. Hein. L'article 23 dit le droit au travail, le libre choix de son emploi. Le libre choix. Pas être exploité, humilié comme dans les kebabs, les, hein, tout ça et tout. Hein. Bon. Et pour l'article 25, c'est le droit à un revenu décent pour vivre, pour se loger, se soigner, s'habiller, etc. On en est encore loin. Hein. On s'en éloigne de plus en plus, hein, tous les jours. Hein. Tous les cas qu'on voit. Une fois, je recevais un gars, un jeune, il vient me voir, il me dit, voyez, monsieur Abbé, je voudrais travailler, mais bon, j'ai fait des... Mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'ai du mal à m'exprimer. Hein, bon, et mais je sais faire plein de choses. Il me dit, et alors il m'avait dit, ça m'avait marqué, vous voyez, j'ai deux mains, j'ai 10 doigts, je sais faire plein de choses, mais on ne me donne pas de travail. C'est choquant un témoignage comme ça. Hein. Bon, alors j'ai envoyé à Dédé Carman pour qu'on l'aide, tout ça et tout. Bon, et je vais avec Pôle emploi à l'époque. Mais quand on a des situations comme ça qui nous arrivent, hein, un jour, il y avait une expulsion à Villeneuve-Casse qui était programmée, c'était un gars. L'adjoint au logement m'appelle. Il dit, écoute Serge, où tu vas au quartier du Pont-de-Bois, il y a un gars qui vit tout seul, on n'a aucune nouvelle de lui et tout. Les huissiers vont arriver lundi matin pour le coup de dehors et tout. Est-ce que tu peux faire une enquête sur le quartier et tout. Bon, donc j'y vois, ouais, t'inquiète pas Daniel, c'était là bientôt. Moi, je vais y aller. Donc je me rends rue du Barreau au Pont-de-Bois. Je regarde. Alors moi, ma fixation, c'est les boîtes aux lettres. J'étais facteur. Donc je regarde. Et puis tout d'un coup, je vois une boîte aux lettres qui déborde de trucs. Bon, je dis, là. Donc je tape à deux, trois portes, je dis, vous connaissez le gars, sa boîte aux lettres ? Oui, la personne me dit, oui, c'est le monsieur là, c'est un malheureux, tout ça. Bon, je dis, d'accord, j'ai compris. Donc je tape à sa porte, j'ai tapé plusieurs fois. Puis tout d'un coup, il mourt, je vois un gars complètement paumé, perdu. Je dis, je peux te voir un peu pour qu'on discute hein. Bon, je lui ai expliqué ce qui lui est arrivé, parce qu'il hein, il était hors sol. Bon, hein. J'ai dit, tu sais, lundi, tu risques d'être foutu dehors. On est là pour t'aider avec le comité anti-expulsion. On va tout bloquer. On a tout bloqué. On a dit au huissier, vous n'avez plus rien à faire ici, dégagez. Hein. Donc, l'adjointe au logement, elle a téléphoné aux bailleurs sociaux et tout. Donc, ils l'ont pris en main. Mais si l'adjointe au logement ne nous avait pas appelé pour dire, va voir ce qui se passe, parce qu'il répondit plus à aucun appel. On a vu un cas complètement paumé, perdu. Hein. Bon, il y avait un peu de revenus et tout, mais bon, et puis vous voyez, bien entendu. Donc si la douane au logement ne nous avait pas averti pour qu'on fasse le barrage et tout, pour que l'huissier ne vienne pas le mettre dehors avec les déménageurs, le surveiller et tout, ben il serait dehors. Donc l'huissier, il a décampé, on lui a dit vous n'avez rien à faire ici, dégagez. Hein, voilà. Donc les services sociaux l'ont pris en main et tout. Puis tout d'un coup, prévenu par la mairie, la famille arrive. Donc j'ai dit, vous savez, si on n'était pas là, votre parent était foutu dehors, c'est ça. Oui, mais comprenez, nous, on travaille. Hein. Ah, je dis, mais ça, c'est la solution. Hein. Et puis, votre parent, il est dans la merde jusqu'au cou, vous n'aimez jamais le voir et tout. Si on n'était pas là, il était dehors. Hein. Ça aussi, c'est un problème. Hein. Le manque d'attention par rapport à ces gens-là qui vivent dans des situations et tout, qui sont hein, complètement perdus et tout. Il n'y a personne autour d'eux et tout. Hein. Heureusement que l'adjointe au logement a eu le bon réflexe de nous. Hein. Et tout. Un jour, on m'appelle. La copine, j'étais à la FSL à l'époque, elle dit « Serge, il y a un couple qui dort dehors dans le temps. » La femme, elle fait une fausse couche. Oh putain. Alors, j'ai mis le couple à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Alors, l'adjointe à la précarité, elle habite à Brigot, le quartier de Brigot. Elle dit « Oui, mais on ne peut pas mettre la mairie de Villeneuve-d'Ascq, on ne peut pas prendre toute la misère du monde. » J'ai dit « Écoutez, il y a une femme qui fait une fausse couche. » Hein, elle est en danger. Hein. Alors, j'ai appelé les Nord-Éclair et tout. Nord-Éclair me fait un article du tonnerre. Puis le lendemain, je retourne sur lui, puis je vois un mec en costume, cravate. Je dis à Nicole, là, tu te connais, non ? Donc, je sais pas. Il dit, je suis employeur, j'ai vu l'article, et je viens pour embaucher le... Donc, putain, c'est la première fois que je voyais ça de lui. Un patron qui vient pour embaucher quelqu'un qui dort sur une tente et tout. J'ai vécu à ce moment-là, c'est... Hein, c'est... Il y avait une petite entreprise pour faire un chute trop fort. Il venait pour embaucher. Vous voyez, c'est tous ces cas-là que j'ai vu depuis, ça fait 35 ans que je milite. Hein, une expression, c'est terrible là-bas. À 6-7 heures du matin, j'en ai vu, je ne sais pas très bien. C'est terrible là-bas. Une fois une expression, le jour de la trêve hivernale, le 31 octobre, la femme, elle descend. Alors, il y avait le commissaire de police et lui, sur mon appartement, mais arrivé trop tard. J'ai dit, monsieur, vous avez une femme, des enfants, là-bas. Ça ne vous fait rien, ça faire, vous allez rentrer chez vous tranquille, vous allez dormir tranquille en faisant les gens dehors et tout. On fait notre boulot, monsieur. On fait notre boulot parce qu'il y avait un jugement du tribunal. Ces situations-là, moi, je ne peux plus ici. Je ne peux plus laisser ça. C'est inadmissible. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va faire combien de temps des journées mondiales de refus de la misère ? Les droits fondamentaux là-dedans, ils sont où ? Tous ces politiques, vous voyez, hein, vous avez entendu qu'est-ce qui se passe, hein, tous les minima sociaux et tout vont être gelés en 2026, il n'y aura pas d'augmentation de salaire des minima sociaux et tout, la PL va être diminuée et tout, mais on est où là ? Oui, qu'est-ce qu'on tant on va laisser faire ? Alors il y a des associations comme le DAL, la CIE des Carbones, la CNL, tout ça et tout, on essaie de faire bouger les choses, mais les politiques sont sourds.
Et ils ne reconnaissent pas le courage des gens qui sont à la rue et qui le matin se réveillent encore parce que nous, on serait complètement. C'est quelque chose qui.
Alors nous, on a des revendications très fortes. Très très fortes. Nous, on est pour un revenu décent, garanti, sur la base du SMIC et un SMIC réévalué. On a souvent du débat entre nous et tout. On est tombé sur un accord. De proposer ça, de mettre tous les minima sociaux à 1000 euros. Et augmenter le SMIC jusqu'à 1600 ou 1700 euros. Parce que quand même, il y a des salariés du travail, il faut quand même comprendre. Et avec le maintien des droits annexes et connexes, ça veut dire la PL. Et... On est très revendicatif et très dur dans les revendications. Mais il faudra bien sortir de cette merde de la misère sociale et qui touche de plus en plus de gens un jour ou l'autre. Hein. Bon, et bien sûr, nous, on ne dit pas pas d'expulsion sans relogement. Nous, c'est point, pas d'expulsion, point. Aucune expulsion, point. Parce que si on dit relogement, ça veut dire qu'on peut quand même expulser. Nous, c'est pas d'expulsion, point. Pas de radiation pour l'emploi, hein, un revenu décent. Donc, hein, avec tous les minima sociaux, le RSA, c'est 500 euros, 580 euros par mois pour une personne seule. L'ASS, c'est 750 euros.
Non, on peut vivre avec ça.
Le minimum vieillesse, c'est 800, 900 euros. Et la H, c'est 970 euros. Hein. Tout ça, c'est... Et moi, un jour, j'avais dit à la Voix du Nord, le SMIC, c'est devenu un minimum social. Le journaliste, il me fait exagérer un peu, il dit combien il te gagne à la bonne humeur. Ah oui, t'as pas tout à fait tort. T'as pas tout à fait tort. Bah ouais. Donc vous voyez, on a une fourchette de revendications très, très forte, mais et on va au moment des élections municipales, on va en parler dans tous les débats, les réunions publiques qu'on a, pour interpeller les élus. Hein. Et à Villeneuve, pour les expulsions, il existe une commission de recours ultime. Donc, ses amis, quand le comité anti-expulsion s'était opposé à plusieurs expulsions, on a été voir le maire, on a dit, écoutez, on peut plus jouer les pompiers à chaque fois comme ça et tout, il faut faire quelque chose. Donc, le maire a mis en place une commission de recours ultime. Donc, il y a le bailleur qui vient, c'est pour les bailleurs sociaux, avec une association de locataires, le locataire qui est présent, et avec le CCRS et tout. Et on trouve toutes les solutions. Je dis au bailleur, ici on ne parle pas d'expulsion, on parle de solution. Hein. Oui, mais comprenez, non, lui, arrêtez votre sonnerie. On parle, donc, avec les on trouve des solutions et tout. Hein. Bon. Après, c'est les gens, hein, et faut que les gens font des efforts et tout. Moi, j'accompagne souvent des gens au tribunal pour les procédures d'expulsion. La juge, elle me connaît maintenant. Hein. Alors, chaque locataire passe 2-3 minutes pour expliquer sa situation et le bailleur explique. Bon, et puis la juge décide. Bon, elle accorde des délais de paiement sur 2 ou 3 ans, hein, en plus du loyer. Bon. Et la juge, je discutais un peu avec elle, elle dit, vous savez, moi, je suis juge, donc j'entends les deux parties, et après, il faut que je prenne une décision. Hein, bon. Mais elle était très humaine, j'ai bien discuté avec elle. Et quand tu vois tous les gens qui sont en impédoyer, qui vont au tribunal, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé et tout, ils sont convoqués parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Ils demandent qu'est-ce qu'ils font là. Non, c'est tout. Ça fait 35 ans que je milite, tous ces trucs-là, ça me heurte et tout. Parce que moi, alors, un jour, BFM, je ne sais pas comment c'est BFM m'appelle dans les grandes gueules. Je dis, monsieur Harry, on fait un débat sur les minima sociaux, est-ce que vous pouvez intervenir? Oui, je dis, on va vous balancer sur l'antenne. Oui, je dis, balancez-moi sur l'antenne. Donc il y avait Éric Brunet, journaliste d'extrême droite, qui me fait, oui, mais monsieur Harry, vous comprenez, les gens, ils sont au RSA, l'assistanat et tout. Je dis, c'est quoi l'assistanat, monsieur Brunet? Donnez-moi le montant du RSA si vous le connaissez. Moi, je le connais, donnez-moi le montant. Oui, mais c'est pas mal et tout. En plus, ils ont la CMU, ben, je dis, montrez tout ça. Hein? Alors Jean-Jacques Bourdin, l'animateur, dit « Calmez-vous, monsieur Harvé !» Mais je suis obligé de m'énerver quand j'entends des conneries pareilles. Des gens qui n'y connaissent rien et qui disent n'importe quoi dans les médias, quoi. 580 euros pour une personne seule pour vivre avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, l'emploi. Nous, on est pour... j'aime pas le mot travail. Je préfère l'emploi. Un emploi digne, avec les 3D, digne, décent et durable. Nous, on est pour les 32 heures. Bon, il y a eu les 35 heures, mais nous, on est pour les 32 heures et on est pour le partage du travail. Et le partage des richesses. Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. C'est le grand issue actuel. On sait qu'il y a de l'argent dans les caisses, mais il faut le redistribuer. Et bien le redistribuer. Quand je vois Rachid Adati avec ses... Hein, l'autre jour, la députée qui dit « Oui, je m'achète des bons... » Parce que pour me présenter dans les médias, il faut que j'ai des habits de, hein, très chers et tout. Non, mais on rêve, là. Mais on rêve. Quand on voit depuis... Un jour, Jean-Louis Canin, au Secours Populaire, ils font le supermarché de la solidarité. J'ai été voir sur place. Il y a là que du microfibre, hein, du local de la de Rue Cabanis, jusqu'au microfibre. Ça fait la queue. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que c'est de ça? Je dis, mais on est où, là? C'est bien ce qu'ils font, hein? C'est bien. Bon, les épiceries solidaires, c'est bien. Mais c'est pas la vie, quoi. On doit avoir un revenu décent garanti pour vivre, pour pouvoir se loger, se soigner et tout. Hein? Alors, les franchises médicales, alors là, moi j'ai eu quelques problèmes d'hospitalisation. La Sécu m'a envoyé une facture de franchise médicale 180 euros. Alors, il y a une femme de la Sécu qui m'appelle régulièrement. J'ai dû prendre une mutuelle, moi je suis contre les mutuelles, parce que j'ai travaillé dans des assurances, mon premier emploi, mon patron il disait, ton boulot à toi c'est d'enrôler les gens. Ouais. Il m'a pas vu longtemps. Hein. Bon. Donc, j'ai été contre les mutuelles, j'avais un complémentaire santé solidaire, comme je fais quelques heures dans la sauce, supprimé. Alors la femme de la CQ elle m'appelle, oui mais comprenez, vos franchises médicales, il faut les payer. J'ai dit, vous les aurez jamais. Et 180 euros, vous les aurez jamais. On va vous saisir et tout. Bah, je vous pouvais rien faire, c'est minimum bien, vous ne pouvez pas saisir. Non mais. Comment acceptent ça, des franchises médicales sur les médicaments pour pouvoir se soigner? Il n'y a personne qui réagit. Hein? Moi je suis. La TVA sur l'électricité va augmenter. Hein? Moi je suis pour la suppression de la TVA sur les factures d'électricité, le produit des premières nécessités. J'avais dit à l'avenir, on va essayer de faire une action sur la suppression de la TVA, parce que nous on fait des opérations crédit dans les supermarchés. On passe une citadine, hein, et puis on va dans les supermarchés, on demande d'avoir rencontré le patron du magasin pour faire avoir un peu de denrées alimentaires et tout. et on demande l'abrogation de la TVA sur les produits de première nécessité. Alors, un jour je faisais ça, une action, téléphone m'appelle. Monsieur Havé, vous êtes un Robin des Bois, des chômeurs et tout. Il dit, écoutez, vos copains, moi je suis Serge Havé, je ne suis pas Robin des Bois. Hein. Donc, il dit, on peut faire un reportage avec vous là-dessus dans les supermarchés. Oui, il venait. Donc, on est passé sur cette avenue. C'est ma magazine d'activité qui passe de 13, une heure au dimanche. On est passé 13 minutes, un reportage de 13 minutes sur les actions qu'a dit dans les supermarchés. Je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ce fainéant, ce voleur, etc. Et tout. Il faut aussi convaincre l'opinion publique. On est tous d'accord sur les problèmes, les solutions à apporter et tout, mais c'est l'opinion publique qu'il faut convaincre.
Si tu peux me permettre, c'est que justement pour les gens, si les gens n'agissent pas, c'est que pour les gens, ils disent ben 5 euros, wow, c'est pas grand chose. Mais quand on est au RSA et quand on regarde le reste à vivre, 5 euros, c'est ce qu'on a pour se nourrir pendant une journée.
Alors,
les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'un
bon. Les services sociaux, je me bagarre avec eux, parce qu'après, tu as les mots. Caudron, il me dit un jour, toi, te défends les mauvais payeurs, les mauvais coucheurs. Écoutez, monsieur Caudron, c'est quoi pour vous un mauvais payeur? C'est merde de vous, là. C'est quoi? Ouais, c'est celui qui paye pas que tout le monde paye tendu. Ben, si vous êtes merde, si vous raisonnez comme ça, vous avez un problème dans votre tête. Il faut que vous soyez. Il m'a fait la gueule pendant je ne sais pas combien de temps. Il m'empêchait d'aller dans la commission de recours ultime. Parce que je défendais les mauvais payeurs, les mauvais coucheurs. Alors, dernier problème, quand tu veux avoir une aide, quand tu demandes à la mairie, au CCAS, une aide sociale, tu ne dois pas dépasser un certain seuil. C'est la moyenne économique. On m'a parlé de ça. Donc, ils prennent tous les revenus qu'il y a dans le foyer et tout, tout ce qu'il y a à payer, et ils divisent par 30 ou 31 jours de mois. Donc, la moyenne économique d'une personne seule qui fait une demande d'aide sociale, il ne faut pas qu'elle dépasse actuellement 7,50 euros par jour. Si elle est à 7,50 euros, c'est même pas la peine qu'elle fait une demande d'emploi, elle le rend.
Toutes dépenses comprises.
Ouais. 7,80 euros pour une personne. Non mais. On marche sur la tête, là, c'est pas possible. Vous voyez, donc, nos revendications, un revenu décent garanti sur la base du SMIC, un SMIC qui va valider, interdiction immédiate des expulsions, le droit à la santé pour tous, avec l'extension de la CMU jusqu'au SMIC. Hein, et un revue pour les jeunes.
Merci beaucoup à Serge et aux autres aussi, bien sûr. Mais tu vois, Max, je suis très touchée par ces militants qui accompagnent des gens qui sont sur le terrain tous les jours depuis des années, des décennies même, et qui lâchent pas. Et qui pourtant, ben, en fait, rêveraient juste de voir leurs efforts récompensés, tu vois, avoir un bout à tout ça. Et c'est... Ouais, je suis vraiment reconnaissante qu'ils ne lâchent pas, justement, et qu'ils nous permettent de nous informer, de continuer pour prendre la relève et surtout continuer, ouais, rien lâcher, quoi. Et j'ai envie maintenant qu'on écoute Marie-France. Marie-France, on pourrait la qualifier de précaire, on pourrait la qualifier de plein de ces mots-là. J'ai envie de la remercier aussi parce que c'est très difficile d'interviewer des personnes vraiment concernées, touchées par la précarité. Donc elle va nous expliquer un peu sa situation. Mais elle a beaucoup de mérite parce que beaucoup de personnes à qui on demande, est-ce que vous voulez bien témoigner, parce qu'on a envie de savoir, et justement, comme on disait tout à l'heure, d'humaniser les chiffres, de pouvoir s'identifier, de pouvoir vraiment comprendre de l'intérieur. Il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de honte aussi, qui sont autant de freins complètement construits, qui empêchent un certain nombre de personnes de répondre oui, et de répondre bah oui, je vais vous parler, je vais vous faire comprendre, je vais témoigner. Donc voilà, Marie-France a accepté de témoigner, on l'écoute.
Moi, je sais pas ce que je veux dire, mais pour les logements, c'est très dur pour les logements. Je sais ce que c'est. J'habite un studio, et ben tout le loyer il remonte.
Chaque année.
Chaque année, ouais.
C'est normal.
Ouais, chaque année.
Du coup, Marie-France, par rapport à ce qu'on disait, est-ce que toi aussi t'as vécu
Moi, j'ai vécu.
Est-ce que tu as envie de donner un exemple par rapport à ce que tu as pu vivre?
Ben, c'est dur à pouvoir vivre.
Ouais.
Bah, avant, tu étais devenue quoi ? Comment ça s'est passé en fait ? Toute la transition entre pension belle famille et avant en fait ? Comment tu les as connus ? Tu vois, Anne-Caroline et tout ça ?
Moi, quand j'étais à Loua, quand j'ai sorti d'hôpital, quand j'ai connu.
Et qui t'avait mis en relation avec eux ?
Bah, c'est l'hôpital.
C'est l'hôpital service social. Ah, bah.
C'est grâce à eux qu'ils m'ont.
Parce que sinon, avant l'hôpital, avant l'hospitalisation, c'était quoi la situation ?
Bah, je sais pas, je m'aurais retrouvé dans la rue.
Et une femme dans la rue, est-ce qu'il y a quand même des aides ? Est-ce que tu pouvais.
Ah non, j'avais pas d'aide. Non, j'avais rien. Non.
Toi, t'as vraiment vécu à la rue.
Ouais.
Combien de temps ça
a duré ? Ah, j'ai pas resté longtemps.
Et comment c'est arrivé en fait ? C'était une expulsion ? C'était
à cause de ma belle-mère et mon copain. Je me suis trouvé à cause de dans la rue.
On va dire que c'est une expulsion.
Parce que ma belle-mère, c'était pour l'argent qu'ils me prenaient. Et c'est comme ça,
et là, vous vivez de quoi ? Quel revenu vous avez ?
J'ai l'âge.
Et du coup, dans la rue, comment tu fais ? Comment tu te débrouilles ?
Me débrouiller. Ouais, je dormais dehors et je me cachais en dessous des arbres pour qu'il n'y ait pas ceux qui nous voient.
Et après, du coup, il y a
aussi les services civiques. Les jeunes filles qui gagnent 600 euros par mois, donc elles couchent dans les parkings souterrains et elles se lavent le matin à la piscine pour aller travailler. J'en ai connu plusieurs et ça se passe comme ça, parce qu'avec 600 euros, on ne peut pas prendre de logement. Et d'autant plus que ça dure 9 mois, qu'on ne cotise pas au chômage, qu'on ne cotise pas à la caisse de retraite. Ça, c'est la pire chose que l'État ait pu faire. C'est-à-dire que ce n'est même pas dénoncé, personne n'en parle. Ça, c'est la pire chose qui existe. Ce sont ces personnes, ces jeunes qui sont parfois des bacs plus 4 ou 5, hein, on en a connu, là, et qui se retrouvent vraiment à la rue pendant 9 mois. Et après, au bout de 9 mois, puisque quand on a été dans la rue, on sait très bien qu'on a du mal à s'en sortir. Hein.
Surtout qu'il y a des drogués, tout ça, qui se promenaient, tout ça, et ça fait peur.
Ben oui, ça fait peur.
Parce que du coup, en plus, il y a
des
risques d'agression.
Ouais. Etc. Ouais, c'est ça.
Voici l'histoire bien ordinaire qui m'est arrivée cet hiver. Cette histoire, c'est un peu la vôtre, car elle n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, le grand patron m'a dit: vous passerez me voir à mon bureau, monsieur machin, on vous remercie. Et j'ai jamais retrouvé de boulot. Une compression de personnel fut mon dernier cadeau de Noël. Alors tout s'est accéléré, mon existence a basculé. Depuis j'habite rue de nulle part, comme ça, ça m'est tombé dessus. Certains choisissent d'être clochard, moi j'ai pas choisi d'être à la rue. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les règles du grand capital m'ont tout volé, même le vital, le nécessaire avant l'envie. Ma vie est devenue la survie, ma maison c'est un carton d'emballage Ikea. C'est là que je bossais comme un con, avant qu'ils aient plus besoin de moi. J'ai faim marqué sur un panneau, je fais le mendiant dans le métro. Ça fait bizarre, je vous assure, puis voir les gens mettre leurs chaussures. Et croyez pas que ça m'amuse de devoir faire le petit numéro du messieurs dames, je m'excuse, une pièce ou un ticket resto. Ça s'est passé en moins de 6 mois, avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau, avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année et les joies du camping forcé, je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous, un jour ça tombera peut-être sur vous. Peut-être qu'un jour ce sera votre tour d'aller crever au pied des tours, l'œil ébloui par la lumière des grands fabricants de misère. Les belles multinationales qui font des pauvres et des maudits, des millions de gens qui crèvent la dalle pour la cinglerie du profit. Et quand arrivera l'euro, vous n'en verrez pas la couleur. Ce sera les mêmes qu'en auront trop. Messieurs, mesdames, à votre bon cœur. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Alors vous vivrez l'aventure que vivent les nouveaux clodos. Car dans la rue, la vie est dure. La rue, ça fait pas de cadeaux. Assis sur le banc de touche, non, vous n'aurez pas le choix. On vous mènera de force à la douche. Et que vous soyez sale ou pas, pour conserver bonne apparence, vous vous raserez tous les matins. Mais les jours de grande affamance, vous volerez les grands magasins. Un feu rouge pour 10 francs à des gens tous indifférents. Vous serez vendeur du lampadaire, l'hebdomadaire de la galère. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Oui mais je sais qu'un jour viendra. Un jour le vase débordera. Les pauvres on se réunira. Voilà ce qui arrivera. En ayant marre d'être cocu, nous les exclus de la galette. On viendra reprendre notre dû. Cette fois c'est vous qui aurez les miettes. Comme il n'y aura pas d'autre solution, on refera la révolution. Des millions de pauvres dans la rue, ça peut vous foutre un bon chahut. Et on ira pique-niquer sur les pelouses de l'Elysée. Et ce jour-là, planquer l'artiche, il fera pas bon être trop riche. Ça s'est passé en moins de 6 mois. Avant je vivais comme toi. Maintenant je dors dans un caniveau avec mes sacs et mon manteau. Les grandes vacances toute l'année et les joies du camping forcé. Je vous le souhaite pas, mais méfiez-vous. Un jour ça tombera peut-être sur vous.
Éric Tulli sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission tous essentielle consacrée au revenu de base et qui touche presque à sa fin.
Oui.
Mais c'était bien sympa cette petite table ronde, vous avez rencontré plein de gens.
Oui, alors sympa, oui, même si voilà, c'est quand même une réalité assez confrontante. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont tenu jusque-là et qui ont, voilà, qui ont osé écouter et oui, entendre une certaine réalité. J'espère qu'ils ne rencontrent pas tous les jours. Et j'ai envie qu'on termine quand même par... Par de l'espoir, au Mouvement français pour le revenu de base, on est en train d'écrire un rapport qu'on appelle le rapport quinquin. Bon, c'est le rapport quinquennat en vrai, mais j'aime bien quinquin.
C'est pas petit quinquin.
Non, c'est pas petit quinquin. Mais l'idée, c'est de prouver qu'en 5 ans, donc en un quinquennat, on peut installer un revenu de base pour tout le monde. Et donc, pendant cette table ronde... J'ai moi présenté voilà, la définition d'un revenu de base, je ne vais pas revenir dessus ici, mais surtout les différents effets globalement des expérimentations. Donc je peux vous les résumer vite fait, vous allez voir comment ça reprend en fait tous les thèmes qu'on a évoqués. D'abord évidemment le premier effet c'est la sécurité matérielle, donc les gens ils ont ce que l'article 25 des droits de l'homme promet, c'est-à-dire la nourriture, un abri, etc. Et des soins aussi. Ensuite, directement, on voit un état psychologique, un soulagement psychologique qui s'exprime physiquement aussi, notamment par un meilleur sommeil, notamment par une baisse de la charge mentale, une simplicité, globalement un sentiment de sécurité. Et ça donne une certaine autonomie, puisque chacun, on l'a entendu dans les témoignages, peut sortir de relations non choisies ou qui ne sont plus bénéfiques pour soi. On gagne du coup aussi en acceptation de soi, de l'estime de soi, de l'intégrité physique aussi même ou morale. Et il y a deux grands effets. Il y a un effet lié plus à l'argent, c'est-à-dire que les gens vont sortir d'achats compulsifs pour aller plus vers de l'investissement grâce à cette nouvelle confiance non seulement en eux mais aussi dans les autres et dans l'avenir. Et c'est peut-être pas complètement intuitif mais ils vont se réapproprier la valeur travail. Et alors on le sent déjà chez les jeunes générations d'aujourd'hui qui cherchent beaucoup de sens à leur emploi et qui ont besoin de contribuer. C'est ce qui ressort de toutes les personnes que je peux croiser dans les manifs ou dans les, même dans les braderies, etc. Et donc tout ça fait qu'il y aurait une nouvelle dynamique économique, ça les expérimentations nous le prouvent, parce que ce besoin de liberté va rejoindre le besoin aussi d'expression de soi, et avec une certaine flexibilité, puisque chacun va pouvoir choisir son emploi aussi en lien avec, en équilibre avec sa vie personnelle, ses aspirations.
Tu veux nous dire par là que le ruissellement du bas vers le haut, ça marche mieux que du haut vers
le
bas.
Oui, c'est exactement ça. Et alors, il y a certains publics qui sont particulièrement touchés par ce bonus, par ces bénéfices. C'est les jeunes, puisque les jeunes vont pouvoir s'émanciper à leur rythme en choisissant les liens avec la famille réciproquement. Les femmes, pareil, aussi au niveau du couple. Et les territoires ruraux. On voit qu'il y a une revitalité des territoires ruraux. Et la deuxième grande branche d'effet, c'est tout ce qui est, du coup, à partir de la confiance en soi, il y a aussi une confiance dans l'autre et dans les autres, dans le collectif, comme un nouveau contrat social qui se tisse, et une nouvelle cohésion avec plus de justice, plus de paix aussi à l'intérieur de soi, mais aussi avec les autres. Et tout ça favorise l'engagement citoyen. On voit que ce temps libéré, potentiellement, va renforcer le sentiment d'appartenance, va redonner envie à la coopération et au partage, mais librement choisi et donc beaucoup plus goûtu.
Eh bien,
quel programme !
Quel programme !
Votez pour moi ! Alors, pour ceux qui voudraient nous suivre, sachez que ce mois-ci, le 12 décembre 2025, va se réunir à Paris les Revenus de Base Awards. Et oui, l'association européenne organise chaque année dans un des pays européens, et cette année, c'est la France, une remise des prix. Donc, il y a un vrai gala. Moi, j'ai eu l'honneur de faire partie des nominés. Je ne serai sans doute pas lauréate, mais je vais co-faciliter cette soirée de gala. Et donc voilà, donc si vous voulez, vous retrouverez la vidéo. Alors soit vous allez directement à Paris, vous retrouverez le lien à l'invitation sur le site revenudebase.info. Donc je répète, le vendredi 12 décembre, donc c'est à partir du fin d'après-midi, et rencontrer alors différentes personnes de différents bords politiques en France qui défendent l'idée d'un revenu de base et différentes versions, et aussi des Européens. Voilà, donc c'est un moment assez, assez touchant, je pense, où on va se faire du bien, on va se requinquer, se redonner du boost pour mieux diffuser.
Voilà. Tu as déjà eu l'occasion de participer à cette réunion les années précédentes ?
Ah non, non, non. Non, non, c'est vraiment parce que ça se fait en France et... Non, puis mon anglais, comment dire. Voilà. Nice to meet you.
c'est déjà pas mal.
Et Basic Income, si, ça, c'est, je connais. Je connais. Donc, bienvenue à tous.
Voilà, et puis on peut également se retrouver le mardi, le mardi
deuxième
juste avant.
Mardi
ça
de
va,
chaque
ça
mois.
Ça va être le mardi juste avant, alors du coup, ça, si je calcule bien.
Non, je crois que c'est juste après.
C'est celui d'après. Okay, d'accord, ça marche.
Au café citoyen.
Allez, c'est là. Virginie, du coup, merci beaucoup pour toutes ces informations, etc. Et puis là, il nous reste une petite minute. Peut-être tu as des choses à dire sur la petite minute qui nous reste.
J'ai envie de te remercier pour tout le travail que tu fais, pour déjà toutes les émissions d'habitude, et surtout pour celle-ci, parce qu'elle était particulière. Réussir à rendre audible cette conférence, cette table ronde, c'était un défi. Merci à toi, et merci aux auditrices et auditeurs qui ont fait l'effort d'écouter, parce que voilà, c'était vraiment important pour moi, pour nous, à Prune, de partager ces témoignages.
Eh bien, alors, à rendez-vous le mois prochain.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine. Ciao, ciao. Au revoir à toutes et tous.
Bonne fin d'année.
Je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends. Je suis essentiel, vous pouvez me croire. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Ah, ah. l'essentiel. Joue, joue. Verser Coursa au champ, engraisser Amazon, pendant que crèvent des honnêtes gens avec leurs mômes. Métro, boulot, dodo, ça va bien un moment. Les hommes ne sont pas des machines que l'on confine. J'suis essentiel, j'suis essentiel, j'suis essentiel, j'suis essentiel, j'suis essentiel. J'suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients